9h-11h, Wendy Bouchard.
Tous, merci de nous rejoindre sur Europe 1 avec un premier tour de la question très liée à l'actualité du matin. Nico Saliagas vient de vous le repréciser. Bonjour Julie.
Bonjour Wendy.
Je vais vous faire réagir, chers amis, au 39-21 sur les enjeux politiques du moment après l'interview exceptionnelle d'Emmanuel Macron. En studio avec nous, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-François Copé, maire de Meaux, une ville qui accueille, vous le savez, le musée de la Grande Guerre. On est aussi dans l'itinérance mémorielle avec nos invités Michaël Darmon, Emmanuel Duteil, Robert Namias pour revenir sur les grands enjeux des entretiens du matin, et nous réécouterons évidemment en substance les grands moments de cette interview si vous ne l'avez pas pu la suivre en direct. Et puis à 10h, un tigre à la une. Je vous parlerai de Georges Clemenceau avec une plaque commémorative en son honneur dévoilée demain à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-il encore un guide, une référence pour un certain nombre de politiques? Qui était vraiment Clemenceau, le père de la victoire de la Première Guerre mondiale? Décidément, la mémoire est en question. Ce matin, on vous attend au Standard d'Europe 1, Julie.
Le 39-21, et vous utilisez le hashtag Europe 1 pour les réseaux sociaux.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et avec nos invités pour revenir et commenter avec les auditeurs l'interview d'Emmanuel Macron, le président qui fourbit sa communication au cœur de sa semaine d'itinérance mémorielle. Président dans l'histoire de France, dans les empreintes des combattants de la Grande Guerre en déplacement sur des terres qui ont tant souffert. Olivier Faure, Jean-François Copé, bonjour messieurs.
Bonjour.
Merci à Robert Namias, Michaël Darmon et donc Emmanuel Duteil de venir aussi échanger avec les auditeurs sur ce qu'ils ont pu retenir de ces mots du matin. Dites-nous d'abord, Jean-François Copé et Olivier Faure, ce que vous avez pensé du retour en communication du président de la République qui a répondu aux questions de l'affaire Benalla, à la violence à l'école. Voilà, il était plutôt calme, plutôt droit aussi dans sa méthode. Rectiligne, le président.
S'est-il seulement un jour arrêté de communiquer? Même, c'est bien une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est de communiquer. Communiquer, il communique beaucoup. Le problème, c'est... Son impopularité n'est pas liée au fait qu'il se soit arrêté de communiquer avec les Français. Son impopularité, elle est liée au fait qu'aujourd'hui, sa politique est injuste. Et dans cette affaire de carburant, la question n'est pas seulement la question liée à l'augmentation des taxes sur le diesel ou sur l'essence. Elle est liée à l'ensemble d'une politique qui ne favorise pas le pouvoir d'achat et qui donne le sentiment qu'elle est en réalité dirigée toujours vers les mêmes et qu'ils ont en réalité à payer la facture que Emmanuel Macron, enfin la facture des cadeaux d'Emmanuel Macron aux plus riches l'an passé et qui se répercute année après année, puisque vous vous souvenez que c'est 25 milliards sur le quinquennat à minima qui vont être dédiés aux plus grandes fortunes de ce pays.
Et politique totalement assumée sur les carburants, Emmanuel Duteil, aujourd'hui. Hein. La hausse du prix du carburant, ok, c'est à 70% lié aussi à la hausse du prix du baril, mais le gouvernement va dans le bon chemin. Mais
effectivement, il y a vraiment eu, de la part du chef de l'État, une volonté de pédagogie sur ce dossier. Effectivement, de rappeler que d'une certaine manière, c'est pas que de leur faute si les prix augmentent, hein, puisque comme le chef de l'État l'a rappelé, c'est en partie dû à la hausse des prix du pétrole, ce qui est une réalité. Il a bien évidemment rappelé que c'est aussi dû à la hausse des taxes, et il dit en substance, ça nous vient pas dans nos poches, c'est pas pour baisser le déficit, c'est pour lutter contre la pollution, c'est pour imposer d'une certaine manière une transition écologique. Mais en même temps, comme on dit à chaque fois, il essaye aussi d'apporter des réponses à ceux qui sont les plus modestes. Donc, il a parlé de renforcer le chèque énergie. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Il a parlé également de généraliser une mesure qui existe dans les Hauts-de-France d'aide pour les plus modestes qui ont absolument besoin de leur voiture. Donc, on sent qu'il y a ces petites mesures, mais derrière tout ça, c'est je vais faire ça, j'en ferai pas beaucoup plus parce que c'est indispensable et je suis certain de cette politique et je vous prie d'une certaine manière de croire que j'ai raison.
On va revenir sur la politique, sur les discours aussi d'histoire. Écoutez ceci et je vous fais réagir Jean-François Copé.
Ça dit que tout ce que nous vivons aujourd'hui, que nous pensons acquis pour l'éternité, est précaire. Que la paix d'Europe est précaire. Elle s'est construite sur ces drames. Elle s'est construite sur cette Première Guerre mondiale qui a fait près d'un million et demi de victimes françaises. Mmh. Mais au total, c'est 10 millions de morts, la Première Guerre mondiale. Mmh. Pour moi, ce que ça nous enseigne, c'est l'absurdité de ces conflits. C'est l'absurdité du nationalisme belliqueux. Et c'est le devoir que nous avons à l'égard de ceux qui sont tombés. On sera aux éparges sur les terres de Genevois tout à l'heure. Ceux qui sont tombés, demandez plus jamais ça.
Voilà, vous qui êtes maire de Meaux et qui accueillez le musée de la Grande Guerre, évidemment, vous êtes au cœur aussi de ces souffrances du passé qui doivent éclairer notre présent, notre avenir aussi, Jean-François Copé. Là-dessus, vous suivez le président.
Oui, je crois que c'est une des missions de la politique. La politique, on en dit souvent beaucoup de mal. On oublie que le rôle des responsables, qu'ils soient d'ailleurs de gauche, de droite ou de centre, c'est de rappeler d'où on vient et pourquoi est-ce qu'on fait tout ce qu'on fait. Et c'est vrai que ce centenaire de la guerre 14-18, c'est pas simplement un parcours mémoriel pour ceux que l'histoire intéresse. Mmh. C'est un message pour l'avenir. Quand on se penche un peu sur cette partie-là de l'histoire, on découvre ébahi l'horreur absolue. C'est vrai que, vous l'avez rappelé, le musée de la Grande Guerre que nous avons fait construire à Meaux, qui accueille la collection privée la plus importante au monde d'objets de 14-18, hein, 60 000 objets, il n'y a personne qui va dans ce musée et qui en ressort comme il y est rentré.
Évidemment.
La prise de conscience est absolument inouïe et il se trouve que c'était en France, en Allemagne, en Italie, dans l'Europe du Nord, en Russie, en Grande-Bretagne, toute l'Europe et puis ensuite tout le monde a été concerné. Et le point de départ, c'est cette horreur-là qui nous a tous, après avec le deuxième conflit mondial, fait dire que l'Europe était un bien précieux dès lors qu'elle parlait de paix. Et quand on voit le reste du monde, ben, il ne faut jamais oublier ça. Et donc il ne s'agit pas simplement, j'entendais parler de procès de récupération politique, c'est un non-sens. Le rôle des responsables politiques, c'est de partager avec la nation ce moment de souvenir et de compréhension. Donc sur ce point, moi je soutiens la démarche d'Emmanuel Macron, je mène le même combat depuis que je me suis engagé en politique, je pense que notre mission, elle est aussi de dire n'oubliez jamais d'où on vient et pourquoi il faut préserver pour l'avenir l'Europe telle qu'elle est.
C'est le fondement de ces 6 jours de déplacement, de cette itinérance mémorielle qui a donné lieu ce matin à une explication de texte sur la politique générale d'Emmanuel Macron. Je vais vous faire réagir Michael Darmon, Robert Namia sur le sujet. Nos invités ici présents jusqu'à 10h et vos appels au standard pour nous dire ce que vous avez ressenti en entendant le président de la République.
On fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public. Au cœur de sa semaine d'itinérance mémorielle, le président Macron a donc accordé une interview à Nico Saliagas pour Europe 1. Et c'est ce que nous commentons ce matin jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard et ses invités.
C'était à 7h40. Si vous n'avez pas entendu le président, vous allez réécouter avec nous un certain nombre de ses propos. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, est avec nous. Jean-François Copé vient de nous parler du musée de la Grande Guerre qu'abrite sa ville de Meaux depuis le 11 novembre 2011. Michael Darmon, éditorialiste politique à Europe 1. Emmanuel Dutheil, chef du service France, et Robert Namias, grande voix d'Europe 1, sont avec nous. Avec messieurs aussi cette nécessité de parfois en passer par l'histoire pour réparer le présent. Il avait besoin, envie manifestement, Emmanuel Macron, de repartir à la rencontre des Français, lui qu'on disait déconnecté aussi des préoccupations de ses concitoyens. A-t-il commencé à réparer ce lien, Michael Darmon ?
En tout cas, il en a très envie et on verra dans quelques jours ce que ça va donner quand les Français aussi s'exprimeront. L'opinion redonnera un petit peu le ressenti de ce qui s'est passé. On est effectivement... à un moment de ligne de crête aussi pour le président Macron, parce que à cet automne 2018 que l'on est en train de vivre, ce sont les derniers mois avant de basculer dans une autre partie du quinquennat où tous les 9 mois il y aura une élection. Mmh. Et là, ça changera totalement la donne. Et on voit bien qu'il y a cette volonté de renouer un lien, de pouvoir redonner du sens de son action, parce que jusqu'à présent, et on l'a vu dans en ce qui concerne les cours de popularité, si on s'en tient quelques instants à cela, jusqu'à présent, ce qui caractérisait cette attitude-là avec le président, c'était un peu ce qu'on appelait les montagnes russes. Mmh. Depuis son élection, il monte, il descend. Et c'était au fond assez inédit. Pour la première fois, il est assez bas. Et l'enjeu, tout simplement, et ce que j'ai ressenti en parlant avec eux et entre les lignes, ce qu'on comprend bien, c'est que là, c'est la prise de risque maximale.
Oui.
C'est au fond la grande offensive. Où ça marche, où ça remonte, où effectivement il y a un vrai problème avec donc ce pouvoir, alors que lui s'inscrit dans une logique justement de dire je ne m'inscris pas pour la fin du mois, je ne me suis jamais engagé pour le pouvoir d'achat, je suis dans une transformation profonde et qui effectivement doit parfois continuer à rester impopulaire.
Sur ce rapport au temps, Emmanuel Macron se confie à Nikos ce matin.
Ils voient leur quotidien, nos concitoyens. Ils se disent le quotidien ne change pas assez vite. Mmh. Je suis d'accord avec eux, mais je leur dis aussi... La voie que nous avons prise, c'est de transformer en profondeur le pays. Et c'est pas simplement de traiter les effets, mais de s'attaquer aux causes.
Même si ça touche votre image, vos sondages, même si la cote de popularité peut aussi être ébranlée.
Et elle le sera encore sans doute un bon moment, je vous le dis. Mm-hmm. Mais est-ce que dans les temps difficiles que notre pays a traversés, quand les politiques dures ont été menées, dans des temps même beaucoup plus graves, on s'attachait à la cote de popularité. Elle n'existait pas. Et je pense que si d'aucuns qui m'avaient précédé là où je suis avaient regardé leur cote de popularité, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait.
Votre analyse, Robert Namias, sur cette analyse notamment du président de la République ce matin.
D'abord, j'entends depuis ce matin, Olivier Faure encore à l'instant, parler de communication. D'abord, la communication, c'est le fait de prendre la parole. Que vous preniez la parole derrière un micro, face à une caméra, à partir de ce moment-là,
oui, d'accepter
vous,
d'y répondre.
Vous communiquez. C'est assez mécanique. Au-delà de ça, je pense que dans cette interview de ce matin, qui à mon avis n'était pas que de communication, il y avait réellement une vision sur l'Europe, très claire, et aussi, il le dit à l'instant, on vient de le réentendre, une vision sur ce que doit être la transformation du pays. Le problème, c'est que au-delà de cette vision, il faut convaincre, et que Macron est dans un moment où il est face, d'une certaine manière, en Europe, à une réalité qui s'oppose totalement à son discours, la division des pays, une Allemagne extrêmement affaiblie, qui fait que le fameux axe franco-allemand ne fonctionne absolument pas. Comment construire une Europe dans ces conditions? Donc, d'ici 6 mois, développer un discours comme celui qu'il a développé ce matin, qui est une réelle vision, encore une fois, se heurte à des réalités, et puis même à des réalités concrètes. Comment convaincre les Français que Bruxelles n'est pas tout puissant, que les pays, les gouvernements ne sont pas soumis simplement à la technocratie de Bruxelles. Ça, c'est pour l'Europe. Quant à ce qui concerne la France, là aussi, il y a une vision. Il y a une, il le dit lui-même. Alors, c'est peut-être même un peu présomptueux, parce qu'au fond, il dit d'une certaine manière, les grands ont toujours été, à un moment donné, contestés, voire balayés. De Gaulle a été balayé en 46. Mmh. Je ne parle pas de 69, mais il a été balayé en 46. Mendès France a été balayé au bout de 7 mois. Il a profondément réformé, transformé le pays, comme De Gaulle, évidemment. Je ne sais pas si Macron se prend pour De Gaulle et Mendès France, un peu, à mon avis, d'ailleurs. Mmh. Et on verra si l'histoire le confirme. Ce qui est certain, c'est que là aussi, il y a des réalités. Et ces réalités, c'est la politique et elles sont indépassables. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement. Il dit j'entends la colère, mais concrètement.
J'entends la colère, mais j'assume. Hein.
J'entends la colère, mais
en même temps,
mais concrètement, est-ce qu'effectivement, dans les mois qui viennent, les mesures qui sont prises seront suffisantes pour non pas apaiser les colères, parce qu'il y a des contestations normales, légitimes, dans une démocratie, c'est tout à fait normal, mais pour faire entendre qu'effectivement, il faut la durée pour transformer ce pays.
Alors, je vous fais réagir juste après la pause, Jean-François Copé, si vous voulez bien, ainsi qu'Olivier Faure. Olga, qui a écouté l'interview d'Emmanuel Macron, qui nous appelle de Montauban, qui veut réagir, et notamment aussi sur la hausse des prix du carburant, voilà, parce que c'est au cœur des préoccupations. On ne parle pas simplement d'Europe, on ne parle pas simplement de perspectives philosophiques et globales. A tout de suite sur Europe 1 avec nos invités.
Jusqu'à 10h, nous revenons sur les propos d'Emmanuel Macron ce matin sur Europe 1. Il a parlé de la Grande Guerre, des menaces qui pèsent sur l'Europe, une Europe qui doit se défendre et se protéger. Et la situation économique et politique de la France a également été évoquée. Wendy Bouchard.
Oui, il assume notamment la hausse du prix du carburant. On y revient avec les auditeurs qui veulent réagir, Jeff et Olga, dans un instant. Robert Namias, Emmanuel Dutheil, Michaël Darmon pour décrypter cette interview, ainsi qu'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, et Jean-François Copé, qui souhaite réagir à ce que vous avez entendu de la bouche notamment de Robert Namias il y a un instant. Maire de Meaux, Jean-François
D'abord,
Copé.
Pour dire, moi je suis assez d'accord avec l'analyse de Robert Namias. Cette idée selon laquelle on affublerait Emmanuel Macron du surnom de Jupiter ou de le comparer à De Gaulle, tout ça est absolument absurde. En vérité, Emmanuel Macron n'est ni Jupiter ni Charles De Gaulle. Il est, s'il arrive à être Schröder, eh ben on aura pas manqué le rendez-vous de ce quinquennat. Et c'est ça qu'on attend, c'est-à-dire du nom de ce chancelier allemand venu de la gauche qui a fait un certain nombre de réformes que la droite n'avait jamais réussi à faire, pour diverses raisons. Reste que la première année l'a montré et qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on est un peu à la croisée des chemins. D'abord parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, la dureté du pouvoir, la violence dans laquelle aujourd'hui s'exerce le métier politique qui est extrêmement forte et parfois difficilement soutenable. On oublie ce détail, dans homme politique, il y a homme aussi quand même, homme ou femme, il faut quand même voir la violence de tout ça. Mais une fois qu'on a mis ça de côté, ce qui est sûr, c'est que ce que j'entends de l'émission de ce matin, c'est quand même une vision qui rappelle une situation. Le clivage aujourd'hui n'est plus entre la gauche et la droite. C'est pas vrai. Il est entre les extrémistes et les partis de gouvernement. C'est une énorme erreur de continuer de fonctionner comme si on pouvait dire qu'on était plus libéral ou plus social. Non, nous avons aujourd'hui une vague extrémiste, je dis même pas populiste parce que le mot est ambigu, extrémiste, qui est le reflet de ce que des millions de gens n'en peuvent plus de voir les partis de gouvernement ne pas être capables d'apporter des résultats suffisants. Or, nous qui sommes contre les extrémistes, il faut absolument qu'on voit et qu'on assume ensemble des réformes qu'il faut faire. Ce pays a besoin d'un virage sécuritaire. Il faut qu'on l'assume. C'est pas d'être de gauche ou de droite. En tant que maire de Meaux, je peux témoigner que quand on y met les moyens, la délinquance baisse. Quand on casse les tours, quand on déghettoise, quand on lutte contre l'islamisme radical, quand on met des polices municipales armées, des caméras, la délinquance baisse. Je peux en témoigner.
Ah oui, mais que le nationalisme soit un problème est grave, mais il y a
exemple.
Aussi une situation économique là, qui nous
réconcilie. Deuxième exemple, j'y viens justement. La fiscalité, j'entends ce débat sur la fiscalité de l'essence, et c'est vrai que pour nous qui sommes élus dans les banlieues dans lesquelles on a des combats difficiles à mener, avec des gens qui n'en peuvent plus de devoir prendre leur voiture, ça coûte très cher, évidemment que c'est insoutenable, et évidemment que par rapport à ça, le vrai sujet, c'est qu'il faut arrêter d'augmenter tous les impôts, parce que c'est ce qui se passe, et les baisses de charges sociales, elles ne sont pas suffisamment perceptibles, à côté de la hausse de la CSG, et maintenant du diesel, c'est ça qui aujourd'hui pollue sans jeu de mots l'atmosphère générale et dont il faut sortir par une politique qui soit une vraie politique de baisse d'impôts et donc de baisse de dépenses publiques.
Je pense que Jeff va nous rejoindre sur ce sujet.
Oui, pardon de
ne
pas être d'accord ni avec Robert Namias ni avec Jean-François Copé. Sur la vision d'abord, est-ce qu'il a une vision de l'Europe ? On peut dire qu'il a les mots de quelqu'un qui a une vision. Mais quand il nous dit ce matin qu'il est contre l'Europe libérale, est-ce que Jean-François Copé est d'accord avec cette vision-là ? Je crois que la réalité, c'est qu'il est plutôt proche de Jean-François Copé, qu'au niveau européen, il est aujourd'hui en train de nouer des alliances avec précisément les libéraux, avec Juncker, avec Verhofstadt, qui sont l'incarnation de ce qu'est la politique libérale européenne d'aujourd'hui. Et voilà qu'aux Français, il leur dit qu'il n'est pas un ultralibéral. Quand il nous dit « je suis pour l'environnement » et qu'il nous dit « j'assume », mais il nous dit quoi ? Il nous dit, j'assume, mais 20% seulement de ces 55 milliards qui vont être prélevés sur les ménages et sur les entreprises pendant le quinquennat, 20% seulement vont servir la transition énergétique. Alors après, on peut dire, effectivement, le nouveau clivage, c'est simplement entre les progressistes et les extrémistes. Mais moi, je suis un progressiste. Je ne suis pas un extrémiste. Mais est-ce que je partage les idées de Jean-François Copé ? La réponse est non. Depuis toujours, nous nous sommes opposés parce que nous n'avons pas la même vision, précisément, de ce que va être l'avenir du pays. Et donc, est-ce que dire que nous sommes désormais condamnés ou nous avons envie de travailler ensemble, ça donne quoi ? Ça donne tout simplement, en fait, l'idée que la seule alternative possible, c'est celle des nationalistes et des populistes. Et donc, le danger auquel nous amène Jean-François Copé ce matin et qui est le discours du président de la République, c'est de laisser penser qu'il y a aujourd'hui soit les libéraux, soit le chaos. Et un jour, on aura le chaos parce que précisément, les Français qui aujourd'hui n'en peuvent plus de cette politique, n'en peuvent plus de la politique européenne qui est menée aujourd'hui par les libéraux, choisiront le chaos.
Il y a surtout, Olivier Faure, les préoccupations des Français. J'aurais qu'on entende Jeff, si vous voulez bien, Jean-François Copé. Jeff qui nous appelle de Vernouillet. Où est-ce Vernouillet, Jeff ? Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour, madame. En fait, je voulais parler sur la question du prix des carburants.
D'accord, vous avez écouté le président de la République et c'est ce qui vous retenait, notamment.
Oui, j'ai écouté, mais bon. Là, il est fait de dire qu'il y aura des propositions d'aide pour les personnes qui font des trajets depuis des 30
kilomètres. Une indemnité kilométrique par mois, soutenue par l'entreprise, notamment.
C'est ce que j'ai dit. Là, aujourd'hui, là maintenant, avec l'augmentation du prix du carburant qui est maintenant... Moi, j'ai une voiture diesel qui n'est pas une vieille voiture parce qu'il fallait investir, déjà acheter une voiture neuve, une voiture récente pour pouvoir aller travailler. Donc j'ai une voiture et donc du coup j'ai fait 78 km aller, 78 km retour pour aller au travail parce qu'on avait dit qu'il fallait aller très loin pour chercher du travail, donc je l'ai fait. Heureusement moi j'ai une qualification, donc j'ai un salaire qui va à peu près, qui approche de 1000 euros, mais je dois dépenser au moins plus de 50 euros par semaine. Pour les carburants.
Oui, ça fait.
Plus de 50 euros par semaine de carburant. Et aussi, ça veut dire que lorsque les week-ends, on s'oblige à ne pas sortir, à ne pas bouger.
Jeff,
pour pas
ça veut dire 200 euros de carburant par mois à peu près pour vous.
200 euros de carburant par mois.
Quand vous écoutez la justification d'Emmanuel Macron qui dit en même temps, les parents ne veulent plus que leurs enfants aient des bronchiolites, ils veulent aussi nous aider dans la lutte contre la pollution. Et il rappelle que 3/4 de l'augmentation de ces prix de carburant sont liés aussi à l'augmentation du prix du baril. Comment vous réagissez-vous ? citoyen.
Moi, la question, dire ça, c'est bien beau, parce qu'après, on peut faire passer les gens pour des méchants ou des criminels, les gens qui veulent travailler et aller très loin pour aller travailler, en disant que, parlant de la pollution, mais pour acheter une voiture électrique ou hybride, c'est extrêmement cher.
Oui, les primes ne suffisent pas. Donc, vous êtes aujourd'hui...
Les primes ne suffisent pas. Si on prend les gens qui gagnent le SMIC, par exemple, c'est encore impossible d'acheter, même si on mettait même avec les primes qu'on parle.
Alors, Jeff, merci, parce que, on arrive justement au bout de la logique d'Emmanuel Macron. Je vais faire réagir nos invités sur le sujet. Cette aide généralisée peut-être, mais ça ne suffira pas à contenter tous ceux qui ont besoin vital de leur voiture pour aller travailler. On fait une petite pause, Julie, et n'hésitez pas à nous appeler comme Jeff au 3921. Olga, Francis sont à l'écoute, notamment.
Sur l'interview d'Emmanuel Macron ce matin sur Europe 1 avec les invités de Wendy Bouchard, deux invités politiques, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, et Jean-François Copé, maire de Meaux, où se trouve le musée de la Grande Guerre. À leur côté, nos éditorialistes, Mickaël Darmon, Emmanuel Duteil et Robert Namias.
Et on va revenir sur les propos de Jeff sur la hausse du prix du carburant, alors que la voiture est notre quotidien. Il a cité Pompidou ce matin, plutôt précisément Emmanuel Macron, en disant la bagnole c'est quelque chose. Il revient là-dessus, 100 000 emplois dans le Grand Est, l'automobile en l'occurrence, et il assume parfaitement la hausse du diesel au niveau de l'essence. Le gouvernement ne se trompe pas, il va dans la bonne direction, mais Jeff était loin d'être satisfait de la réponse avec ses primes et ses indemnités kilométriques, Emmanuel Duteil.
Oui, c'est sûr que le président de la République a essayé hier un énième exercice de pédagogie sur ce thème. Il essaye de faire passer le message que c'est bon pour nous. C'est bon pour des questions de santé publique, vous citiez tout à l'heure, Wendy, l'exemple qu'il a donné sur les bronchiolites. C'est bon parce que c'est de la lutte contre la pollution, et d'une certaine manière, quand vous parlez avec certains ministres du gouvernement, ils disent: si on ne tape pas aujourd'hui au porte-monnaie, on n'arrivera pas à faire changer les comportements des gens. Changer les comportements, ça ne veut pas dire tous acheter une voiture électrique, parce que ça, effectivement, c'est une réalité qui n'existe pas dans pleine ville de France. Changer les réalités, c'est par exemple la prime à la conversion qui existe déjà aujourd'hui. Si vous voulez acheter un diesel qui pollue moins, vous pouvez bénéficier d'une...
Diesel qui pollue moins, mais qui en termes d'essence nous coûtera aussi cher, même s'il consomme moins.
Mais c'est un des exemples qu'il a donné, avec cette prime à la conversion qui fonctionne très bien, avec cette aide à la transition écologique, si vous voulez changer votre chaudière au fioul et la passer sur des choses qui consomment moins. Mais c'est vrai qu'au-delà de ce discours, qui est un discours qui, on l'entend avec l'auditeur que l'on a eu à l'instant, ne passe pas, tout simplement, parce que quand vous payez 4, 5, 10 euros en plus votre plein, c'est la seule chose que vous voyez. Donc c'est peut-être pour ça que le président hier a essayé d'envoyer un mini-signal avec des petites aides en plus, une aide qui serait copiée sur ce qui existe.
Et qui serait payée par les patrons,
les Hauts-de-France,
qui ne sont pas très contents.
Voilà, alors ça, ils vont sûrement encore râler, mais effectivement, payée entre région et patronat. Alors qu'est-ce que serait cette aide? C'est les gens qui ont plus de 30 à 40 km par jour pour aller travailler. Si on copie l'aide qui existe dans les Hauts-de-France, c'est une vingtaine d'euros par mois qui peut être offert comme ça par la région, c'est le cas dans les Hauts-de-France. Et il a également parlé d'un chèque énergie. Là, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années, qui avait remplacé les minima sociaux. Pour les tarifs sociaux, pour les gens qui, là encore, sont modestes, pour tout simplement pouvoir se chauffer ou pour pouvoir payer de petites dépenses de rénovation énergétique. Ce chèque devait déjà augmenter. Il est de 150 euros aujourd'hui en moyenne. Il devait passer à 200 euros l'année prochaine. Le président est resté assez flou sur la mesure. Il a renvoyé ça au gouvernement en disant trouver une solution.
Il faut qu'on travaille là-dessus.
Bon, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut qu'il soit plus simple, plus facilement obtenable et peut-être un tout petit peu plus élevé.
J'aimerais avoir votre sentiment à tous sur son explication de texte et sur sa politique droite en la matière, Mickaël Darmon.
Oui, alors effectivement, il essaie de trouver des solutions pour régler les problèmes, je dirais, quotidiens, qui ne sont pas anodins, mais qui pour lui restent aussi du quotidien. Je rappelle qu'il y a quelques jours, il a quand même déclaré je ne suis jamais engagé sur le pouvoir d'achat et mon projet n'est pas pour la fin du mois. Et au fond, c'est ça la difficulté aussi que rencontre Macron en ce moment. C'est-à-dire qu'il est un peu victime de l'analyse qu'il a posée depuis le départ, qui n'est pas fausse du tout, c'est-à-dire on vit une époque incroyable de mutations dans tous les domaines technologiques, sociaux, économiques, robotiques, numériques, qui changent considérablement la manière de fonctionner, la manière de travailler, la manière de se parler. Et à partir de là, il dit: je serai le président de cette mutation. Et donc, la difficulté est de faire passer ce message. Il le fait en disant: on va fermer les 30 glorieuses. On va fermer tout ce qu'a fait la France jusqu'à présent depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, première victime collatérale, on va dire entre guillemets, les retraités, qu'il accuse d'avoir effectivement tout siphonné depuis des années. Et donc, avec la dureté qu'il leur applique. Et ça, c'est au fond quelque part la difficulté de départ de son mandat, la difficulté de son récit. Le diagnostic est juste. On parle depuis tout à l'heure sur l'Europe libérale, pas libérale, nationale. Pendant ce temps-là, il a évoqué les Chinois font la route de la soie et considèrent que la parenthèse de l'Europe s'est terminée. Donc, vous voyez, on en est quand on regarde ça d'un peu plus en haut. Et lui, il est à ce positionnement-là, et c'est oui. toute sa difficulté à le faire passer au niveau des Français.
On verra ce que donnent les prochains sondages, même si il n'en tient pas vraiment considération. Mais 84% des Français pensaient encore il y a quelques semaines que Emmanuel Macron n'améliorerait pas leur pouvoir d'achat. Et pourtant, il doit bien répondre à cette grogne, oui. à cette journée peut-être du 17 novembre, les Gilets jaunes en colère.
C'est une grande constante. Je n'ai jamais vu de sondage dans lequel les Français se disent notre président va augmenter
pourtant,
le pouvoir d'achat.
C'est la préoccupation principale.
C'est bien ce que j'allais vous dire. Oui. C'est tout le problème. C'est que nous ne pouvons pas continuer d'avancer si on ne fait pas ces réformes qui vont permettre d'améliorer le pouvoir d'achat. Et la première d'entre elles, c'est de baisser les impôts. Je suis désolé de devoir y revenir. C'était un péché originel d'avoir augmenté le CSG. Mieux aurait valu augmenter la TVA parce que c'est pas du tout la même assiette. Et en réalité, ça n'a pas d'effet sur les prix compte tenu de l'ouverture à la concurrence. Mais je pense qu'au-delà de ça, et c'est là-dessus que je voudrais vraiment insister, il faut absolument que maintenant chacun comprenne que sur ces réformes, il faut revenir au quotidien. Évidemment que quand on part sur l'augmentation de l'essence dans un contexte d'overdose fiscale, on exaspère les gens. Ce qu'a dit votre auditeur Jeff tout à l'heure, on peut l'entendre partout et à juste raison. À l'inverse, je pense quand même qu'il faut qu'on soit capable de mettre les pieds dans le plat sur les sujets qui fâchent. Vous parliez de l'Europe. Moi, je suis désolé, le débat n'est pas de savoir si l'Europe, elle est ultra-libérale. Vous parliez de ça, Olivier Forteur. Il n'a pas dit qu'il combattait l'Europe libérale, mais l'Europe ultra-libérale. Bah, il a raison. La différence ? L'Europe ultra-libérale, c'est une Europe qui est vraiment totalement ouverte à tous les vents. Et je crains que dans un certain nombre de domaines, elle ne le soit trop aujourd'hui. Bah, l'Europe libérale, c'est celle simplement qui permet de faire en sorte que l'économie de marché fonctionne et que les entreprises créent de l'emploi. Et j'espère qu'un jour, le PS va progresser dans ce domaine. Sinon, je crains que vous soyez toujours, toujours avec les scores qui sont les vôtres aujourd'hui, qui sont celles d'un échec.
On poursuit notre
réflexion.
Écoutez,
je ne sais pas lequel blague le plus. Moi, je vois les résultats. Alors. Sinon, ça veut dire que les Français vous auraient donné des scores considérables aux élections. S'ils ne l'ont pas fait, c'est bien que quelque part, il y a derrière ça un constat d'échec.
Parce que vous n'êtes pas très, très haut non plus.
Alors,
c'est
vous réagissez.
D'analyse. Et je pense que le PS aurait tout intérêt à le faire aussi.
Au Parti
Socialiste. Et en ne le faisant pas, on ne progresse pas.
A tout de suite avec Josiane, Robert Namias, Mickaël Darmon, Emmanuel Dutel. Josiane qui nous appelle les Pyrénées-Orientales, qui a écouté le président avec beaucoup d'attention ce matin, qui a des choses à nous dire au Standard d'Europe 1.
Si vous n'avez pas tout suivi de l'interview d'Emmanuel Macron sur Europe 1, restez à l'écoute jusqu'à 10h, car nous la commentons, cette interview, et nous en rediffusons des extraits. Wendy Bouchard.
Oui, alors qu'Emmanuel Macron à Verdun jongle entre mémoire et grogne sur les carburants, il a répondu à beaucoup de choses, notamment sa position sur l'affaire Benalla, les violences à l'école, on en reparlera. Et vous nous raconterez les coulisses de cette interview que vous avez suivie également, Emmanuel Dutheil. Robert Namias, Olivier Faure et Jean-François Copé, je vais vous faire réagir au propos de Josiane, qui est avec nous depuis les Pyrénées-Orientales. À la Tuire et qui a écouté le président Macron ce matin sur Europe 1. Bonjour Josiane.
Oui, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, j'ai écouté le président ce matin et je pense, on le voit bien en ce moment, qu'il y a un grand décalage entre la pensée et l'action de notre président et qu'il lui voit à moyen terme, voire à long terme, pour la France, au sein de l'Europe, au sein du monde, on revient à tout ce qui se passe dans d'autres pays, oui. Je ne suis pas là pour le commenter, et bien sûr les Français, la majorité des Français qui pensent au court terme, à juste titre, à leur pouvoir d'achat, en effet l'augmentation de la CSG, l'augmentation des carburants, aidée par des politiques que je vais qualifier, pour rester correct, inconséquentes. Je pense qu'on en a les exemples tous les jours, il y a un Macron bashing actuellement, et je pense qu'on a tous intérêt que l'action de notre président marche pour notre pays.
Alors, vous lui faites confiance manifestement, Josiane, mais vous comprenez la préoccupation quotidienne de vos concitoyens sur le pouvoir d'achat.
Tout à fait, et c'est vrai que l'histoire du diesel, bon, il faut bien qu'on pense aussi à notre planète. Quand vous voyez que tous les jours, vous allez devant des écoles où il y a un enfant par voiture, alors qu'on pourrait faire des regroupements, je prends cet exemple, il y en aurait tant d'autres.
D'accord.
Moi, je prends mon vélo.
Vous voulez du bon sens.
Oui. Du bon sens. Et peut-être, en effet, il y a des mesures symboliques. Bon, le président ne veut pas revenir sur l'augmentation des carburants, peut-être qu'il y aurait un petit geste à faire qui, au niveau du symbole, plairait à beaucoup de gens. Je ne sais pas, un petit pas. Mais je crois qu'il faut que les Français pensent aussi. Il y a un décalage. Notre président, il pense au moyen et au long terme.
Oui, absolument. Et Josiane, c'est ce qu'il disait d'ailleurs, réflexion différente sur le temps, mais un petit geste quand même n'aurait pas été de refus, dit Josiane, Olivier Faure et Robert Namias.
Oui, j'entends Josiane, et je comprends qu'elle entend soutenir le président, mais ce que nos concitoyens reprochent aujourd'hui au président, ce n'est pas, ce n'est pas d'être décalé dans le temps avec une vision du temps long quand nous serions scotchés sur le temps court. Ce qui lui reproche, c'est sa duplicité, le fait qu'il ait un double langage. Parce que ce qui est insupportable aux Français, c'est de se voir dire. Je prends un exemple simple, qui est celui du carburant. Oui. Il y a deux éléments qui sont qui caractérisent cette duplicité. Premier élément, c'est que en fait, cet argent, on nous dit, il est censé assurer la transition énergétique. Ça n'est pas le cas. 20% seulement de ces 55 milliards qui vont être prélevés en plus dans le quinquennat...
Pour la transition. Le reste ?
Le reste va au budget de l'État, aux collectivités locales, etc. Mais il n'y a qu'une part infime qui part donc dans la transition énergétique. Deuxième point, c'est que les Français, ils le voient bien, et c'est ce qu'ils ont compris avec l'histoire de la CSG pour les retraités, c'est qu'on prélève toujours sur les mêmes personnes et... Dans le même moment, en même temps, comme dirait Emmanuel Macron, on offre un cadeau fiscal de 5 milliards par an aux plus grandes fortunes de ce pays. Et donc les gens se disent, mais est-ce que c'est logique que ce soit moi qui paye quand d'autres sont exonérés de l'effort ? L'effort, ils sont prêts à le fournir, y compris pour la transition énergétique. Ils pourraient le comprendre si ça servait au moins l'environnement et s'ils n'étaient pas les seuls à le payer.
Alors vous rejoignez sur la fiscalité injuste. Les propos de Jean-François Copé, Olivier Faure.
Sur la fiscalité, moi j'entends bien, moi je suis contre
le fait que... Il faut baisser
les
impôts et les taxes.
Il faut, pas tous les impôts et pas toutes les taxes, mais ce que je dis c'est que ce que la ponction supplémentaire sur les retraités qui a été opérée l'an dernier est une ponction qui est insupportable pour les retraites qui sont quand même
en même temps sur les taxes sur l'essence. Il faut juste peut-être rajouter quand même un point. Oui. C'est Ségolène Royal qui a inscrit cette trajectoire dans la loi et on ne fait jamais.
Non, monsieur. Quand même. Non, nous avons créé la taxe carbone. Ça, c'est vrai.
Vous l'avez inscrit dans la loi.
2014, vous l'avez, 2015,
avec une programmation pluriannuelle que le gouvernement ne fait jamais que prolonger.
Eh ben non.
Bah si.
Mais non, c'est bien tout le problème. C'est ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y avait une trajectoire qui avait été fixée par le gouvernement, mais le gouvernement actuel a augmenté cette trajectoire. Il y a 55 milliards de plus prélevés sur les ménages et sur les entreprises, de plus que ce qui était prévu dans la trajectoire initiale. Voilà la réalité. Alors, et à un moment où le contexte est un contexte de hausse du prix du baril, ce qui est complètement illogique.
Robert,
quoi la volonté du gouvernement ? C'était de dire, il faut un signal prix. Il faut que, à la fois, le monde automobile, les Français comprennent que le diesel, on doit en finir avec. Simplement, quand vous avez déjà le prix d'essence qui augmente, c'est pas la peine d'aller plus loin.
Alors, Robert Damias, avant,
c'est tout ce qu'il fait.
Bon, pas ce niveau-là.
Je suis pas là pour vous séparer dans votre débat. Mais juste là où on a un vrai problème tous, autant qu'on est autour de cette table, c'est qu'on a tous, à un moment ou un autre, soit participé à des gouvernements, soit appartenu à des équipes ou soutenu des équipes gouvernementales qui ont toutes, dans ce domaine, eu le même discours, qui était un discours de dire attention, le diesel pollue. Le problème, c'est pas une question de mensonge, c'est une question de cohérence.
Oui.
Le problème aujourd'hui, c'est que je pense à ceux qui nous écoutent et qui se disent, mais ils sont quand même un peu, ils exagèrent, parce que eux aussi ont tenu ce discours.
Jean-François Copé.
C'est qu'il y a quelques mois, vous étiez au gouvernement, enfin pas au gouvernement, vous souteniez le gouvernement de François Hollande et que vous souteniez la taxe carbone, la dénonciation du diesel, etc.
Je suis moi-même
dans l'opposition. Donc je suis pas là pour défendre Emmanuel Macron. Je suis juste pour proposer un rendez-vous de cohérence. Il y a un moment où il faut qu'on fasse un peu attention parce qu'on devient nous-mêmes inaudibles. Donc la question,
là,
elle est de savoir.
Inaudible parce que.
Bon, enfin, écoutez,
c'est pas ce que j'ai dit.
Écoutez.
Vous pouvez ne pas traverser, si vous voulez avoir votre propre faites vos propositions, mais ne cherchez pas à traverser ce que je viens de dire. Je dis que je suis pour la taxe carbone. Je suis pour le fait qu'elle finance la transition énergétique et non pas le budget de l'État.
Vous voyez combien votre discours est quand même un peu compliqué à tenir. Vous êtes pour toutes les taxes, mais en même temps, vous voulez pas qu'elles augmentent quand c'est sous Macron.
La vérité,
c'est la vérité. C'est tout le problème du débat politique, c'est que si vous n'êtes pas capable de respecter vos interlocteurs, alors effectivement, le message est totalement brouillé.
Depuis tout à l'heure, je ne peux pas en placer une, tellement vous m'interrompez.
Moi, je ne parle pas de ce que vous dites, je ne cherche pas à raconter.
Soyez pas agressif.
On fait le tour de la question sur l'interview exceptionnelle d'Emmanuel Macron ce matin sur Europe 1. Du travail de mémoire en plein centenaire de la Grande Guerre à la hausse du prix des carburants ou la non-affaire Benalla.
Oui, absolument. On entendra encore le président un certain nombre de fois s'il n'avait pas pu suivre cette interview ce matin. Olivier fort, Jean-François Copé. Vos réactions sont attendues également, juste après celle de Robert Namias, de Mickaël Darmon, qui veulent réagir à nos propos avant pub, Robert.
Oui, moi je crois que tout ce qu'on a entendu, d'ailleurs, correspond à une réalité, c'est que la situation est objectivement, réellement dégradée. Ce n'est pas une affaire de sondage, de cote de popularité. Il y a un fossé entre l'actuel gouvernement et une bonne partie du peuple, non pas de l'opinion, mais du peuple.
Mais pourquoi, il va dans la bonne direction.
Pourquoi,
hein,
oui, mais pourquoi? Parce que je crois, cette affaire de carburant, de ce point de vue-là, est tout à fait exemplaire. C'est une surcontamination sur une situation qui, déjà, était une situation de défiance à l'égard d'un gouvernement qui, pour l'instant, n'a pas de résultat. Parce qu'on peut on pourra le démontrer, c'est assez facile, même si, effectivement, au quotidien, la question du carburant est centrale, les augmentations à prévoir, on parle des augmentations et non pas de l'investissement global qui existe déjà dans la consommation de carburant. Ces augmentations sont de faible ampleur en termes d'euros.
C'est symbolique.
C'est symbolique parce qu'il y a 7 centimes aujourd'hui, ça fait 7 euros pour 100 litres. 100 litres, ça fait plus de 1000 km pour une voiture ordinaire. Il faut déjà faire beaucoup de kilomètres, même à la campagne, pour faire 1000 km par semaine. Bon, donc c'est une question aujourd'hui qui dépasse largement les carburants, si j'ose dire. C'est explosif parce que la situation est explosive. Ouais. Mais elle est explosive aussi, on vient de le voir là, y compris dans le débat qu'on vient d'entendre entre Jean-François Copé et Olivier Faure, parce qu'il y a dans ce pays un déficit de démocratie politique, de démocratie représentative, et que finalement, ce sont les extrêmes qui se font entendre, sans argument de fond, sans projet politique réel, mais qui se font d'autant plus entendre qu'on a l'impression que les partis d'opposition traditionnels, parlementaires, de gauche ou de droite, eux n'ont pas de propositions à faire, ne font pas réellement de propositions, et dans ces conditions, sont une espèce de démagogie et d'emballement pour créer finalement un discours qui soit au-delà du discours des extrêmes, parce que, pardon, ce que vous dites sur les carburants, ce que vous dites sur un certain nombre de choses, ça n'est rien d'autre que d'être à la poursuite de l'extrême droite, de l'extrême gauche.
Vous allez réagir, monsieur.
Mais au fond, attendez bien, même sur les carburants, ce que je viens de dire sur le fait que la réalité de l'augmentation ne correspond pas à cette colère, il faudrait avoir le courage de le dire, que la colère, elle n'a rien à voir avec la réalité de cette augmentation, qu'elle est compréhensible, qu'il faut l'entendre, mais que cette affaire du carburant...
Elle cristallise.
Vous ne vous interrogez pas sur le fait, par exemple, qu'une citoyenne, tout à fait ordinaire et respectable, soit plus entendue que vous parce qu'elle s'exprime sur les médias sociaux et sur les réseaux sociaux. C'est une vraie question de démocratie dans ce pays.
Mickaël Darmon et ensuite, parole conclusive à Olivier Faure.
Et cette colère est aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, dans son entourage, ses équipes, il se pose tous les jours la question du pourquoi. Et la réalité de fond aujourd'hui...
Ils ont mis du temps à désamorcer. Hein.
Mais c'est même pas forcément encore désamorcé. Oui, mais la réalité, c'est que depuis la rentrée, depuis l'affaire Benalla qui a déréglé quelque chose. La question qui se pose en permanence dans les équipes de l'Élysée, c'est qu'est-ce qui ne marche plus? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive plus? Qu'est-ce qui fait qu'on a le sentiment que la situation nous échappe?
Et que surtout, il y a une défiance.
Et que la défiance est là. Alors, il y a des tentatives d'explication. On est venu au pouvoir en 9 mois. Le système, entre guillemets, le vieux système politique, entre guillemets, se venge, veut récupérer. On est seul. On a un parti en état de non-marche absolue. Il va falloir construire au fond un parti à l'ancienne si on veut gagner les élections, avoir des candidats. Et c'est toute l'interrogation de fond actuellement de cet exécutif qui se demande comment repartir.
Alors, Olga, Salim, Francis, Drich, je vous donne la parole, mais nos invités politiques vont partir, donc vous aurez la parole à partir de 10h. Petite parole pour conclure, après tout ce que vous avez entendu ce matin, Jean-François Copé, puis Olivier Faure.
Bon, écoutez, je crois qu'on est à la croisée des chemins.
Oui.
Emmanuel Macron ne va pas remonter parce qu'il a fait une semaine dans l'Est de la France. En réalité, derrière tout cela, il y a bien sûr ce qui relève du Macron bashing, c'est, si j'ose dire, dans le pactage.
Oui, dans l'ordre des choses.
Et puis il y a aussi une réalité beaucoup plus profonde, c'est qu'il ne faut pas manquer le rendez-vous de ce quinquennat et qu'il n'est possible que si des réformes profondes sont faites. Il faut qu'il ait la détermination de le faire et il faut que nous, dans nos oppositions respectives, nous soyons en situation de lui dire « ça, c'est très mauvais, ça à l'inverse, c'est bon et on soutient. » Parce que si on est systématiquement dans le contre, y compris sur des choses de bon sens ou des choses qui sont cohérentes avec ce qui ont été faites avant, on est ridicule. Je pense qu'il faut qu'ils mettent beaucoup plus le paquet sur les questions de sécurité, car aujourd'hui, il y a des problèmes réels. Je pense que sur le plan économique, il faut continuer un certain nombre de réformes, sinon nos entreprises vont se délocaliser. Et enfin, en ce qui concerne l'Europe, je suis désolé, il faut assumer qu'on doit se battre contre les extrémistes qui, aujourd'hui, menacent la cohésion européenne.
Voilà,
et bien
sûr,
ces trois sujets, il faut qu'on assume.
Jean-François Copé, maire de Meaux. Olivier Faure, pour conclure et terminer.
Oui, ce qui se passe avec Emmanuel Macron aujourd'hui, parler de défiance, c'est quoi la défiance ? C'est tout simplement le fait que les Français aient perdu confiance dans ce président qu'ils ont élu il y a à peine un an et demi.
Même dans un certain nombre de politiques.
Pourquoi ? Bien sûr. Mais l'examen de conscience, il vaut pour tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est lui qui gouverne. Et pourquoi cette confiance, elle a été perdue en si peu de temps ? Tout simplement parce qu'ils ont le sentiment d'avoir quelqu'un qui leur parle, mais qui ne leur dit jamais la vérité de ce qu'il fait. Et aujourd'hui, sur la question des carburants, je vois bien le mouvement du 17 novembre est parti en réalité de Seine-et-Marne. Et je vois bien, j'ai écouté celle qui a lancé cette pétition sur Internet. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit... Bien sûr qu'on sait que demain va être un autre monde et qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique. Mais elle dit, je ne crois pas pourquoi c'est nous qui le faisons et qu'ils payons seuls. Pourquoi les riches en sont exonérés? Et pourquoi est-ce que l'argent
et
qu'on donne...
Et pourquoi nos politiques nous ont emmenés là aussi?
Mais
elle le dit, elle a raison.
Oui, et pourquoi on a si longtemps vanté les qualités du diesel et qu'aujourd'hui on dit que le diesel c'est mauvais? Parce que tout simplement, on a évolué sur ces questions-là. Moi, je ne peux pas être comptable de ceux qui, il y a 20 ans, ont lancé l'opération diesel. Simplement, ce que je dis aujourd'hui, c'est que il faut une taxe carbone, bien sûr. C'est responsable et c'est, nous l'avons engagé et nous avons eu raison de le faire. Simplement, quelle était la volonté de cette taxe carbone ? C'était de dire qu'il faut donner un signal prix sur le diesel, le faire converger avec l'essence, mais pas à ce rythme-là. Pas comme ça
c'est
et pas
ça
un moment
choque.
Où le
Très
prix
bien.
Du baril
Alors,
est aussi élevé
nos auditeurs
parce que
vont
ça pèse
là-dessus.
Sur le budget des ménages
Merci,
et que
Olivier
c'est
Faure.
Un ras-le-bol qui est plus général sur le pouvoir d'achat parce
Merci.
Que la politique monnaie est une politique qui est contre le pouvoir d'achat.
Driss de Rennes va revenir notamment sur vos propos. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, député socialiste de la 11e circonscription de Seine-et-Marne, puisque vous citez ce département. On fait le tour de la question encore quelques instants. On prolonge un peu parce qu'on n'a pas pu vous donner suffisamment la parole, chers amis, je m'en excuse, mais on y vient. Merci Jean-François Copé. Merci Olivier Faure. Robert Namias, Michael Darmon, Emmanuel Dutheil, reste avec nous. À tout de suite, Julie.